Bien, je voudrais faire de cette soirée comme une espèce de petite récollection. On se remet en contact. On se remet en contact avec Dieu à travers son serviteur, Padre Pio de Pietrelcina. La vie de Padre Pio, c'est un très grand mystère. Lui-même l'avouait, je suis un mystère pour moi-même. C'est un mystère d'amour. Sa vie nous échappe totalement, bien qu'on l'ait connu, je l'ai connu bien intimement, mais c'est un mystère d'amour et sa vie nous échappe pour mieux nous mener au pied de la croix et nous faire comprendre plus profondément tout ce que ça veut dire pour nous. Et ce n'est que par la prière qu'on peut rejoindre un homme aussi proche de Dieu que l'était le cher Père. Les fêtes sont là, certes, comme autant de signes d'une emprise divine sur une créature. Padre Pio, premier prêtre stigmatisé, disparaît devant la sainte humanité du Christ. Padre Pio, c'était un de ces êtres dont la présence, comme celle du feu, crée une certaine fascination, presque un envoûtement, parfois même une certaine gêne. Tant ceux qui les entourent se sentent différents, inférieurs et lointains, il semble que ces êtres-là soient des exilés d'une autre terre, d'un autre monde, et qu'ils passent au milieu de nous à la manière des météores. De temps à autre, c'est vrai, le Seigneur envoie sur cette terre, dans ce monde pécheur qui est le nôtre, des âmes solaires, le soleil, dont la mission est de ramener l'humanité vers l'amour de son Dieu, et Padre Pio était de celle-là. Et je me souviendrai toute ma vie de cette lointaine soirée d'octobre 1955 où j'ai rencontré pour la première fois Padre Pio. Je vous raconterai ça tout à l'heure, si vous voulez, un peu plus en détail. Mais j'avais été conduit à la tribune de la petite église du couvent des Capucins, en longeant les couloirs sombres sur lesquels s'ouvraient les portes des cellules. Et j'avais pris place à côté d'un religieux dont je me souviens bien qu'il était ce soir-là passablement enrhumé. Mais je fus attiré tout de suite par l'expression étrange de son visage, tendu vers un au-delà que lui seul voyait. Il passa sa main sur son front dans un geste qui devait lui être familier. Cette main portait un gant, ou plus exactement une mitaine. J'étais à côté de Padre Pio, cet homme que j'avais eu si peur de rencontrer. Parce que l'ennemi des âmes, comme disait le Père lui-même, n'avait évidemment aucun intérêt à ce que nous nous rencontrions. Et j'avais surpris Padre Pio dans sa prière. J'ai compris alors ce que voulaient dire des mots comme recueillement, concentration d'esprit, regard d'amour sur Dieu. De temps à autre, ses yeux se portaient sur le tabernacle qu'on apercevait à travers la balustrade qui fermait le cœur monastique, ou bien il s'élevait vers cet émouvant crucifix qui se dressait au-dessus d'elle, celui-là même qui avait été le témoin, sinon l'auteur de sa stigmatisation au matin du vendredi 20 septembre 1918. Padre Pio était vraiment l'homme de la prière, c'était aussi l'homme de la souffrance, l'homme de l'offrande, l'homme du pardon. Voilà les quatre points cardinaux de cette attachante personnalité que je voudrais regarder avec vous. Comment j'ai connu Padre Pio? C'est tout un roman. 1954, 6 octobre, je rentre au séminaire français de Rome et je prends la soutane, on devait rentrer en soutane, devant le corps de Saint Pie X dans la basilique de Saint-Pierre. Le soir, on va voir Pie XII d'ailleurs. Puis l'année se passe et je rentre dans ma Savoie natale, je suis d'Annecy. le plus beau pays du monde, le plus beau lac de France. C'est pour ça que les gens qui en sont sortis sont forcément des gens très bien. Bien. Et puis, je reviens au mois de juin 55, dans ma Savoie natale, et j'adorais faire le marché avec ma brave maman. Une personne tout à l'heure m'a dit bonjour, elle a connu ma mère. Et alors, je sais que ce jour-là, il y a une dame qui m'aborde, ma mère, dit « Quel dommage qu'un si joli garçon, il paraît que j'étais joli à ce moment-là, se soit fait prêtre, vous rendez compte ?» Et ma mère lui répond aussi sec « Mais madame, le Seigneur n'attire pas seulement les laiderons, sans quoi il vous aurait appelé vous. » Deux minutes après, ma mère s'arrête devant une dame qui vendait des poireaux, des légumes, tout ça, d'origine italienne. Elle me dit « Mais vous êtes au séminaire à Rome ?»« Oui, madame. Vous connaissez Padre Pio ?» Je lui dis « Non, qu'est-ce que c'est, ça se mange ?» Scandalisé, évidemment. Alors elle m'explique, elle me dit « Padre Pio est un capucin. » Bon, très bien. « Il habite au sud de l'Italie. » Bien, mais je m'en moque. Il est stigmatisé. Quoi? Il lit dans les consciences? Non. Il a le don de bilocation? Où? Il dit la messe en 2h15. Ben, je lui dis, alors on n'est pas sorti de l'auberge. Et alors elle me dit, voilà, vous allez retourner à Rome au mois de septembre. Eh bien, je vous donne 10 000 francs de cette époque-là, parce qu'avec la fluctuation de la monnaie, ça doit faire quelque chose d'à peu près comme 600 francs, des anciens francs, des francs qu'on vient de quitter maintenant pour prendre l'euro. On est européen, on ne l'est pas. Dire combien ça fait d'euros, j'en sais rien. Parce que je ne vaux rien en mathématiques, c'est beaucoup mieux comme ça. Et puis, elle me donne ces 10 000 francs, vous allez poursuivre votre voyage, vous allez voir Padre Pio, vous allez lui confier, lui parler de moi, et puis vous allez lui dire que j'ai perdu la paix pour je suis sûr au quoi. Et... alors à ce moment-là, eh bien, vous me donnerez la réponse. Ah bon? Bien. J'empoche les 10 000 francs et je dis à ma brave maman, elle est un peu cinglée ta copine là. Et ma mère me dit, non, peut-être pas. Bien. J'ai pu penser à Padre Pio pendant tout le mois de juillet. Et voilà qu'au mois d'août, le pèlerin, l'hebdomadaire, a fait paraître un numéro dont les deux pages centrales étaient consacrées à Padre Pio. Et c'est la première fois que je voyais sa photographie. Alors j'ai lu l'article, effectivement, ce que madame m'avait dit, c'était rapporté là. J'ai dit, bon sang, mais elle ne s'est pas trompée, la petite vieille dame. Qu'est-ce que c'est que ce bonhomme? C'est ça que tu vas voir? Quel effet ça va te faire? J'ai commencé à avoir la peur de ma vie. Parce que des gens comme ça, ça ne court pas les rues. Bon, je me suis efforcé d'écarter ça de ma tête. Mais voilà que le mois de septembre arrive et plus il y avait cette hantise d'aller voir là. Pourquoi? Une espèce de peur panique, je ne sais pas pourquoi. Je ne comprenais pas, je n'avais jamais éprouvé un sentiment comme ça en moi. J'ai su après en réfléchissant que c'était celui que j'appelle le petit copain d'étage du dessous, le démon qui ne voulait pas que j'aille là-bas. Bon, le jour du départ arrive, alors je m'embarque par le train, je change de train à Aix-les-Bains, je prends le Paris-Syracuse qui effleurait Rome. Il n'arrêtait pas à Rome à Termini au centre, mais à Rome Ostiense. Et je tombe là, dans un compartiment, avec sept Siciliens. Il y avait huit places, si vous vous souvenez. Sept Siciliens. Les Italiens, c'était pas mal. Alors les Siciliens, ça se visite. Ça vaut le déplacement, trois étangs dans Michelin, c'est fantastique. Parce qu'au bout de 5 minutes, il faut connaître tous les temps aboutissants, les photos des parents, des grands-parents, des chiens, des chats, des cousins. On ne peut pas voyager si on ne fait pas connaissance. C'est pas chrétien. Ils vont faire toute la morale comme ça. Moi, j'étais pas totalement à l'aise et bon, c'est pas tout à notre genre de nous déballer comme ça. J'ai dit, Seigneur, je t'offre ce sacrifice. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais si ça continue comme ça, je vais exploser. Ça a duré toute la nuit. Et pour meubler l'histoire, quand on est arrivé à peu près à La Spezia, c'était 2h du matin, on a sorti un poulet bouilli, enveloppé dans un papier journal dont les lettres s'étaient décalquées sur la peau des animaux. C'était vraiment ragoûtant, c'était merveilleux. Si on n'a pas rendu, c'est pas de sa faute, pas de notre faute. J'ai décidé finalement, en arrivant à Civita Vecchia, c'est-à-dire à 60 km avant Rome, de ne pas aller à San Giovanni Rotondo. Donc, on arrête à Roma Ostiense, la gare d'Ostie, et puis je prends congé avec un grand soulagement, comme on peut le deviner, de mes bruyants siciliens, et je prends ma valise, et puis je me dirige vers le bout du wagon, la sortie, il n'y avait pas encore à ce moment-là la fermeture automatique, évidemment. Alors imaginez le tableau, j'avais la main gauche sur la poignée, que j'avais ouvert la porte, la main droite, bien sûr, avait la valise, le pied droit était par terre, valait mieux pour tenir debout, et le pied gauche était en l'air, prêt à faire le deuxième pas. Et je me suis bloqué là, paralysie totale, incapacité de faire le moindre mouvement, même pas cligner les yeux. J'ai eu la peur de ma vie. Qu'est-ce qui m'arrive? Au secours! Puis, plus personne ne descendait, donc le chef de gare a sifflé, le train est reparti, et je me suis dit que lorsque le train va avoir une certaine vitesse, je vais être happé par la vitesse, je vais rouler sous les roues, ça va être affreux comme mort, au secours Seigneur, acte de contrition, modèle réduit, on n'a pas envie, on n'a pas possibilité de dire toute la formule. Puis, quand le train a acquis une certaine vitesse, je me suis débloqué. Alors, je suis rentré dans mon compartiment, les Siciliens m'ont regardé, et je lui ai dit, excusez-moi, monsieur, dame, mais j'ai oublié que je devais aller jusqu'à Naples. Ils m'ont regardé, je suis là, il est complètement fou, j'ai peut-être pas tout à fait tort, d'ailleurs. Mais ça a commencé le cirque. Donc, j'ai décidé de ne pas aller plus loin que Naples, eux, ils partaient en Sicile, Dieu merci, et que le diable les emporte, je me suis dit comme ça. Et puis, je suis descendu de là, en regardant trois panneaux, trois horaires, qui concordaient pas, mais c'est normal, parce qu'on est à Naples, rien ne se fait normalement dans ce pays-là. Alors, en à peu près en faisant la moyenne, j'ai calculé grosso modo que j'avais trois heures à attendre, valise à la consigne, et je me suis promené en soutane, dans une chaleur atroce, dans cette ville qui est, merveilleusement crasseuse, pouilleuse, mais enfin c'était splendide, comme paysage. Monter là-haut avec toutes ces baies de Naples, l'île de Capri. C'est bien français, on passait les vacances de Noël à l'île de Capri, c'est pas mal. 2h30, 3h après, je vais retourner à la gare et j'achète un billet pour Rome. Je regarde, bon, les horaires ne concordaient pas quand même, mais le quai était le même. Il y avait un train par là-dessus, on va voir. Deux trains d'un de chaque côté, je prends le train de gauche qui va bien sûr aller à Rome, forcément. Et on s'en va vers le nord, jusqu'au moment où on arrive une cinquantaine de kilomètres plus haut, il y a un grand château là, et au lieu de filer tout droit, on tourne à droite. J'avais pris le train de Foggia au lieu de prendre le train de Rome. Je me suis dit, qui manipule quelqu'un? Qui? Je ne sais pas. Et à ce moment-là, le train devient omnibus, il s'arrête à chaque station, c'est la seule façon que ces gens qui habitent dans la montagne, qu'on traverse toute l'Italie, tous les Apennins, avaient pour sortir de chez eux. Et le train était bondé, vous savez, dans le sud de l'Italie, on ne voyage pas avec des valises, parce que c'est que des valises, ils prennent des sacs à patates. Alors ça fait des gros baluchons énormes, il y en a partout, dans les couloirs, dans les soufflets, c'est typique, il faut voir ça. Et moi, j'étais seul dans le compartiment. Alors, à chaque station, je me levais, je mettais les épaules contre la vitre, je regardais en face de moi la porte, et les gens ouvraient la porte, regardaient à gauche, à droite, les banquettes, il n'y avait personne dessus, forcément, ne me regardaient pas, mais fermaient la porte comme s'ils avaient vu du monde. C'est un détail important que je vous dis là. Retenez-le bien. Je ne savais pas pourquoi. On arrive de l'autre côté, dans la plaine des Pouilles, Foggia, un orage comme j'ai jamais vu de ma vie, quelque chose d'atroce, épouvantable, tonnerre, éclair, grêle, tout ce qu'il fallait, tout le total, quoi. Je suis sorti de la gare, il y a un taxi qui m'a abordé, je vois toujours le bonhomme, les yeux tout noirs, comme ça, et puis la figure taillée à coups de hache, un bon sicilien, quoi. Il me dit, montez là, vous allez voir Padre Pio, montez là, ça ne sera pas cher. Ça m'a coûté 35 000 lire, mais c'était énorme à ce moment-là, c'est-à-dire à peu près 600 francs. Je ne savais pas où était San Giovanni Rotondo. Je n'ai même pas regardé sur la carte parce que je ne savais pas où on pouvait le trouver. On s'en va sur la route de Manfredonia, qui maintenant est une quatre voies, mais à ce moment-là, c'était une rue qui devait avoir à peu près 6-7 mètres de diamètre, pas plus, mais très mal goudronnée, des trous partout, la pluie, la grêle, tout ce qu'il fallait pour nous rassurer. Lui ne disait pas un seul mot. Le taxi, est, je ne sais pas comment il n'a pas rendu l'âme, mais ça fait rien. Tout d'un coup, il tourne sur la gauche, il commence à grimper dans les rochers. J'ai dit, ça y est, c'est un mafioso, il va faire la peau, acte de construction modèle réduit, deuxième édition, on n'a pas le temps de dire toute la formule. Il a quand même ouvert la bouche quand on est arrivé à San Giovanni Rotondo dans le bourg. Il m'a dit, si chiama Rotondo, perché Rotondo? Il s'appelle Rotondo parce qu'il est rond. Ah bon, merci quand même. Et voilà que on arrive dans ce... On sort de là, on monte vers le couvent. C'était le désert total, il n'y avait rien du tout. Il devait y avoir à peu près une dizaine de maisons, il y a encore. Et il m'arrête devant un petit hôtel qui s'appelait Villa Pia. Si certains d'entre vous connaissent San Giovanni Rotondo, devant cet hôtel, actuellement, il y a un autre qui s'appelle le Gaggiano. Et je prends la dernière chambre, qui casse un carreau en moins, cassé, humide, la soutane humide, il n'y a rien de terrible. Le père qui est là, il a porté la soutane dans le temps, non? Et quand elle était mouillée, ça pesait trois fois plus lourd. C'était, puis ça nous mettait d'une humeur massacrante. C'était mon cas. Alors j'ai posé la valise et puis je suis descendu sans savoir ce que j'allais faire. Un clochard m'aborde, il me dit, vous me donnez 100 lire et je vous fais voir Padre Pio. Alors, 65 000 avant, 100 lire, au point où on en est. Très bien. Et il m'a conduit dans la petite église. L'hôpital de Casasollievo de Sofferenza, qu'on traduit maladroitement maison soulagement de la souffrance, mais c'est pas tout à fait exact, c'est plutôt la maison de la souffrance transfigurée, c'est pas la même chose. C'était une carcasse simplement, et puis il y avait rien d'autre, la basilique n'existait pas évidemment, et puis il m'a fait rentrer dans l'église, petite église, beaucoup plus petite que celle-là, mais c'est plein de monde. Il y en avait partout, les allées, on ne le voyait plus. Et il y avait on était en train de faire la préparation de la fête de Saint François d'Assise, qui est le 4 octobre. C'est bien ça? Bon. Je veux savoir si vous écoutez, c'est pour ça. Et il me dit, il faut aller de l'autre côté, là-bas, de l'autre côté derrière l'hôtel, parce qu'il y a, là, il y a quelqu'un qui va vous mener voir Padre Pio. Je dis, mais comment on va faire? Il n'y a pas moyen de passer. Et lui m'a donné la technique de traverser une foule. Si un jour vous allez à quelque part où il y a beaucoup de monde, voilà la technique qu'il faut employer. Il faut jamais couper une foule. Vous n'y arrivez pas. Vous longez les murs. Ça va beaucoup mieux. Et effectivement, deux minutes après, on était de l'autre côté, dans une sacristie pleine d'hommes, des fiches spirituelles, mais je ne le savais pas. Un capucin taillé en Hercule, j'ai compris pourquoi après, était là, et mon clochard lui dit, c'est un prêtre français qui voudrait voir Padre Pio. Très bien, il dit, l'autre, il fait mener là, au chœur. Le chœur monastique, c'était la tribune, comme ce serait là-haut. Et il me fait sortir de la sacristie, monter au premier étage, mais je sentais en moi un sentiment que je ne connaissais pas, une haine, quelque chose d'effrayant. J'aurais, je crois, étranglé tout le monde et j'aurais pris un Italien pour taper sur les autres. Tellement la haine que j'avais, c'était quelque chose d'effrayant. Et moi, j'assistais à la naissance en mon cœur de cette haine que je ne connaissais pas. L'autre aussi travaillait, celui du dessous. Et il m'a fait passer dans la couloir des cellules. Il m'a dit, ça c'est la suite de Padre Pio. Bon, il m'aurait dit que c'était la tour Eiffel, c'est la même chose. Je m'en fichais du tiers comme du quart. J'ai même à peine regardé, puis je suis suivi, si on ne voyait pas clair là-dedans, et il me fait déboucher dans cette tribune là-haut, et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois Padre Pio, je viens de le raconter tout à l'heure. J'étais subjugué par la prière de cet homme-là, et je me suis mis à l'aimer. Du moins, oui, ou à le respecter et à l'aimer. Tellement, c'est la première fois de ma vie depuis longtemps, plutôt que je voyais un prêtre qui priait avec une telle intensité. Alors on est venu chercher Padre Pio au bout d'un moment pour il devait descendre pour donner la bénédiction du Saint-Sacrement. Et alors on me fait le lever avec le ménagement dû à mon rang et napolitain, c'est-à-dire vie, hein. Bon, ouais, tout juste si on tient debout encore. Et Padre Pio s'est levé avec peine. Et je me suis dit, mais bon sang, s'il est stigmatisé, il a les pieds blessés aussi, c'est pour ça qu'il souffre. Et je dirais, mon amour pour lui a doublé encore à ce moment-là. Les autres, je les haïssais tous autant, hein. Mais celui-là, non. Et alors, il s'est redressé, et puis il m'a regardé du haut en bas deux ou trois fois, comme ça. Il était assez grand, il m'arrivait à peu près au nez, à peu près par là. Il avait quand même 1m80-82, quelque chose comme ça. Et avec un petit sourire, et puis en passant devant moi, il me fait un grand coup de poing sur la poitrine avec le revers de la main. C'était un geste qui faisait, qui a une grande signification, mais je ne le savais pas. Et on attend, au bout d'un instant, on voit Padre Pio ressortir de la sacristie avec la chape sur le dos. Les gens se lèvent, applaudissent, crient, le Padre, Padre Pio, ils chantent, etc. Lui s'arrête, il se met à hurler, silence, tout le monde à genoux, devant le Seigneur, on se tait. Ouh, je dis, ben bon sang, au moins voilà quelqu'un qui croit en Dieu, c'est quelque chose. Et puis, je l'écoute. Il récite une prière que je ne connaissais pas, qui semble être appliquée, du moins attribuée à Saint Alphonse de Ligorie, et puis la fameuse novène irrésistible, qu'il récitait tous les soirs pour tous ceux qui s'étaient recommandés à lui pendant la journée. Est-ce que vous connaissez cette prière universelle, cette prière irrésistible? Qui ne la connaît pas? Levez la main, simplement. Eh bien, je vais vous la dire, c'est sensationnel. C'est le Seigneur lui-même qui avait dicté cette prière à Padre Pio avec des mots que lui-même avait employé dans l'Évangile. Alors c'est comme ça, commence comme ça. Seigneur, tu as dit, demandez et frappez. Cherchez et vous trouverez. Alors, je frappe à la porte de ton cœur, je cherche ta miséricorde et je te demande telle grâce. Et on rajoutait, de notre Père, je vous salue Marie, je vous gloire au Père. Notre Père, parce qu'il y a cette phrase importante qui dit que ta volonté soit faite. On ne peut pas prier chrétiennement si on ne se coule pas dans la volonté de Dieu, c'est lui qui commande, c'est pas nous. Puis je vous suis de Marie parce que la petite mère, elle intercède, elle gloire au Père, c'est merci Seigneur d'avance. Et on rajoutait derrière, cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Et deuxième vague, Seigneur, tu as dit, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera, alors à ton Père, en ton nom, je te demande cette grâce. Pater avec gloria, cœur sacré de Jésus. On pouvait rajouter une troisième. Seigneur, tu as dit, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'obtiendrez, et cela vous sera accordé. Alors, Pater avec gloria, cœur sacré Jésus. Et on terminait par le coup de grâce. Seigneur, tu as dit, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Alors, m'appuyant sur l'infaillibilité de tes paroles, je te demande cette grâce, Pater avec gloria, t'as intérêt, ça veut dire, à m'accorder ça. Comment voulez-vous que le Seigneur puisse refuser une grâce qui lui est demandée avec des mots que lui-même a dit? C'est comme s'il avait donné des verges pour se faire battre. Et Padre Pio l'avait compris, et tous les soirs il disait cette prière pour tous ceux qui s'étaient, dans la journée, recommandés à lui. Alors à la fin, j'ai retrouvé mon chemin, dans le couloir sombre, je suis passé devant la chambre de Padre Pio, qui pour moi n'était plus la tour Eiffel, mais la chambre d'un saint, d'un ami de Dieu, au moins j'ai mis les deux mains sur la porte, et je suis descendu dans le couloir, plein de monde, il y avait des femmes, quelques hommes, mais beaucoup de femmes là-dedans, tout ce monde là s'agaçait, on aurait dit, si vous voulez, la basse-cour à 5h du matin qui se réveille au chant du coq, hein. Et voilà, Padre Pio sort, entouré de quatre capucins, taillés comme des Hercules, dont celui qui m'avait conduit là-haut. Je me suis dit, c'est quand même drôle. Il a besoin de garde du corps. Ah, j'ai pas mis longtemps à comprendre. Toutes ces femmes lui sautaient dessus comme la misère sur le monde, avec des ciseaux pour lui couper des poils de barbe, ou bien des morceaux de vêtements. Alors, les autres avaient fait du pugilat, c'était des coups de coude, des coups de poing, et tout ce monde attendait comme des mouches. J'étais mais sidéré, j'avais jamais vu ça de ma vie. Jamais. Et tout ce monde-là était à genoux. Padre Pio passait bénissant l'un, donnant sa main à baiser à l'autre, tapant sur la tête d'un troisième. Je me suis dit, ces gens-là sont complètement fous. Padre Pio, peut-être un saint, c'est possible, mais c'est pas le bon Dieu. Moi, je suis français, Descartes, cartésien, du calme, on prend pas feu. Je me mets à genoux devant Dieu, mais pas devant les saints. Donc je reste debout. Je n'avais pas l'air idiot, non. Fallait pas croire. Jeune séminariste, maigre et svelte et joli garçon, paraît-il, l'autre me l'avait dit, debout tout seul au milieu d'une multitude de femmes écroulées par terre, et Padre Pio qui râlait au milieu. J'ai regardé ça, c'est un peu étonnant. Mais Padre Pio me regardait de temps en temps par-dessus la tête des gens, et j'étais pas très très à l'aise, faut quand même avouer. Jusqu'au moment où il arrive à peu près à la distance de monsieur qui filme là, et moi, et je l'entends, le capucin qui m'avait conduit à la tribune, lui dit « Père, c'est un prêtre français qui voudrait vous voir. » Et le père répond à haute voix pour que j'entende bien, et sans me regarder, « Non, pas prêtre, séminariste seulement. » Ça a été le déclic, je me suis dit « Mettons-nous à genoux, c'est peut-être plus prudent. » Et à ce moment-là, il écarte les deux capucins de chaque côté, il vient vers moi, il joint ses mains derrière ma tête, il me presse la tête contre la plaie de son cœur, je ne savais pas, je sens ce parfum extraordinaire qui enivre vraiment. Et je me suis dit, et en plus il se parfume, eh ben c'est bien. Alors il me prend la figure entre ses mains, puis me regarde intensément, puis me fait haut. D'abord il m'impose des mains, j'ai senti comme une décharge électrique terrible, je ne savais pas, j'ai enregistré, mais qu'est-ce qui m'arrive là? C'était à mettre en rapport avec la parole du Seigneur, la parole de l'Évangile. Une vertu sortait de lui qui les guérissait tous. C'est ça. Et il prend ma figure entre ses mains, puis il me regarde, il dit « Oh, quel voyage pénible tu as fait !» 34 heures. Je n'avais pas calculé, mais j'ai calculé rapidement. Il me dit « C'est vrai ? Comment il le sait pour le savoir ? Comment il sait pour le savoir ?» Et l'enfer entier est avec toi, ricordati, rappelle-toi, dans le train, dans le compartiment, nello scompartimento, tutti i diavoli erano seduti, hein? Tous les démons étaient assis dans ton compartiment. J'ai eu l'explication que les gens ouvraient la porte, ne me voyaient pas, mais voyaient les démons, hommes et femmes, il doit y avoir des démons aussi de deux sexes, hein, pour voir, je suppose, étaient assis sur les banquettes. J'ai été escorté par la moitié de l'enfer, c'était pas mal quand même. Et il me dit, ben, tu viens demain à 9h, j'ai beaucoup de choses à te dire. Et il est parti. Je suis rentré à le petit hôtel. Malheureusement, la moitié des personnes qui étaient là faisaient partie de cet hôtel. Ils avaient raconté tout ça à l'hôtelier qui m'attendait avec un verre d'amaro, dont me brûlait l'estomac toute la nuit. C'était sensationnel. Mais je me suis assis à une petite table qui était la moitié de celle-là, à peu près, pour prendre la minestrone, vous connaissez la minestrone, c'est la soupe de légumes avec des pâtes, la cuillère tient debout dedans, c'est consistant. Et puis la pâte chouta derrière, c'est encore plus consistant, avec ça vous dormez 3 heures de temps. Bon, j'appelle le patron, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a comme fleurs dans le pays? Il dit, niente fiori, il n'y a pas de fleurs. Il dit, comment? Depuis que je suis là, je sens un parfum extraordinaire, il n'y a rien des fleurs dans le coin, je le sens maintenant. Ça m'arrive dans les narines, c'est enivrant par moments. Il m'a dit, non, là, il y a un olivier, il y a un amandier, il y a des cailloux, mais ça sent rien. Il dit, alors, hanno capito, e Padre Pio. J'ai dit, quel est le rapport il y a entre ce parfum et Padre Pio? Et lui me dit, c'est que Padre Pio envoie son parfum aux gens qui veulent suivre spécialement. Ça y est, en un fou de plus, ils sont pas tous enfermés. Bah, via, basta. Ils sont tous cinglés, au secours Seigneur. La nuit était archi courte, à 14 du matin il fallait se lever parce que Padre Pio disait à la messe à 5 heures du matin, quelle est la société humaine qui réunit ces gens à 5 heures du matin à part Padre Pio, hein, 5 heures du matin. Alors, la pluie tombait toujours, la soutane n'était pas sèche, l'humeur était massacrante, tous ces gens étaient excités comme tout, bon, et je me dirige avec toute cette foule dans la petite église. Il y avait sur le côté un auvent, un petit auvent, je me dis, tu vas te mettre dessous, comme ça tu auras moins de pluie, tu vas regarder ce qui se passe. On doit quand même bien respecter les soutanes dans ce pays-là, je suppose. Il y avait devant la porte un conglomérat de bonnes femmes, agglutinées comme des abeilles autour de leur reine, les premières avaient les mains rivées sur le poignet de la porte. Et ça disait, le chapelet a raison de 10 chapelets à l'heure au moins. Avec d'une façon spéciale, prions pour la santé del padre, prions pour la santé du père, vous salue Marie pleine de grâce, prions pour la personne qu'on aime le plus, qu'on aime le moins, ça y est, ils sont tous cinglés, ils sont tous réveillés, au secours. 5h15, on entend un bruit de clé, et les deux panneaux de la porte s'ouvrent ensemble, et tout ce monde la rentre, comme, je me suis mis à rire. J'ai comparé ça à l'entrée des taureaux dans une arène de Camargue, vous savez, les taureaux. J'étais médusé. Puis d'un coup, je me suis doublé de rire parce que j'ai vu une chose extraordinaire. Vous savez, les bonnes sœurs dans le temps, elles avaient tout un attirail sur la tête. Il y avait de voiles. Vous avez connu ça, vous, ma sœur, les anciens costumes. Non? Il y avait une guimpe, il y avait je ne sais pas trop quoi, il y avait... Dans la bagarre, elle avait été décoiffée complètement, elle avait tout son attirail à la main, et elle était tondue comme un rat. J'y ris, elle non. Je suis rentré, je crois, le dernier dans l'église, et j'ai utilisé la technique de la veille, j'ai longé le mur, j'ai fait le tour de l'église, et puis je suis arrivé, je me suis aperçu tout d'un coup que Padre Pio ne disait pas la messe au centre, dans le maître-autel, mais sur le côté droit, un petit hôtel dédié à Saint François d'Assise, il y a une statue en dessus, un simple petit hôtel avec un simple marchepied. Puis il y avait un confessionnal là à côté, quand on regarde l'hôtel comme ça, l'hôtel face au mur évidemment, sur le côté gauche de l'hôtel, il y avait un confessionnal, maintenant il y a une grande vitre qui donne accès à la basilique. Et je me suis dit, il y a un confessionnal, dedans il y a un siège, tu vas t'asseoir dedans, tu fermes à la porte, tu diras rien à personne, comme ça tu verras sans être vu, et tu seras assis. Ces gens-là sont cinglés, il vaut mieux pas se mêler trop là-dedans. Puis au bout d'un moment, je me dis, mais une idée, c'est le Seigneur qui travaillait pour l'homme, une idée me traverse l'esprit. Si jamais quelqu'un s'aperçoit qu'il y a un confessionnal plein, et qu'il veut se confesser, moi je suis pas prêt, je vais rentrer en deuxième année de séminaire. Quel effet ça va faire? Faut que je sorte de là, il n'y a pas de problème. Je suis sorti. Une armoire à glace devant moi, un soutane immense, énorme. Je dis, tiens, il y a un curé qui est là, je vais faire connaissance, c'est un collègue. Je vais vers lui, je regarde, oh, bon sang, au bouton violet, cette teinture violette, un monseigneur, pas évêque, mais un monseigneur. Je dis, monseigneur, excusez-moi. Mais moi, je me suis présenté, bien sûr. Lui, c'était le secrétaire du cardinal Ercaro, archevêque de Bologne, fils spirituel de Padre Pio aussi, mais je ne le savais pas encore. Je dis, écoutez, ces gens-là, pour moi, sont tous cinglés, excusez-moi, mais moi, je suis français, cartésien, il vaut mieux garder la tête froide. Si par hasard, d'après ce qu'on dit, il se passe des choses extraordinaires pendant cette messe, est-ce que vous me permettez peut-être de vous les faire partager pour savoir si je pense juste qu'ils voient clair ou si je déraille? Il me regarde avec un petit sourire, oui, bien sûr, avec un petit sourire qui voulait dire, t'as pas fini de t'étonner. Bon. Deux, trois minutes après, un remous de foule, deux hommes passent l'un à côté de l'autre, avec les coudes, ils font un chemin. Bon. Tant pis si on a des blessures ou si on a mal au poumon, pourquoi pas, tant pis, coup de coude, bien. Et derrière, il y avait Padre Pio, qui avait les mains, c'était les anciennes chasubles, les boîtes à violon, si on peut dire, hein. Et alors, voilà que le Padre Pio était derrière, avec les mains jointes, des mains jointes sur sa... Bon, il faut que j'arrive à mettre ça, parce que... Bon, peu importe. Et il parlait à quelqu'un. Il parlait à quelqu'un. Qui? Je ne savais pas. C'était Marie. Il parlait avec la Vierge Marie. Comme il m'avait dit une fois, la Madone m'accompagne toujours à l'autel. Et toi aussi, elle t'accompagne. Comme elle accompagne chaque prêtre, l'ennui, me dit-il, c'est que les prêtres ne le savent pas. C'est pas vrai, Père? Il y a un Père, là. Alors, voilà que, finalement... Bon, ça va bien. Finalement, Padre Pio arrive, donc dans l'ordre qu'il y avait moi, le Monseigneur, l'hôtel. Il passe devant moi et il s'arrête. il ouvre les yeux, il me regarde, et puis il me fait, oh, prego per te, je prie pour toi, grazie, merci, et il donne un coup de poing sur la poitrine, puis il s'en va. Et le Monseigneur se retourne, t'as entendu? Oui. T'as entendu ce qu'il a dit? Oui. Il a dit qu'il priait pour toi, oui, mais il ne le dit jamais. Il dit, pour la dette, pourtant il l'a dit. Il me regarde, dit, mais qui es-tu toi? Qui sais-tu? Qui es-tu toi? Qu'est-ce que j'en sais moi qui je suis? Bon, regarde comme ça. Il arrive à l'hôtel, le Padre Pio, et à ce moment-là, traverse mon esprit une idée un renseignement que j'avais donné, que de temps en temps, il lui arrivait de chasser du monde de la messe. Il disait, c'est drôle, si vous voyez un truc comme ça, ce serait marrant. Je raconterai ça, c'est une anecdote extraordinaire. Je n'avais pas plutôt mis ça dans ma tête, que Padre Pio s'arrête au milieu du confessionnal. Du confiteor, peux-je dire, il passe d'un pied sur l'autre, il agite les mains comme s'il jouait de la guitare. Il était en fait très souffrant. Il se retourne et il avise quelqu'un au milieu, là, devant lui, je vois toujours ce monsieur habillé en blanc. Tout va bien, va-t'en, qu'est-ce que tu fais ici, va-t'en, mets la foi, on est dehors. Et la foule s'écarte, le type sort. Puis la foule se revient et on se remet en prière. Et je me suis dit, si un prêtre en France faisait ça, c'est lui qui sortirait, c'est pas la personne. C'est évident. Bon, étrange pays. Et puis, bon, il lit l'épître, l'évangile, il pleure. Bon. Et puis voilà que je me suis dit, il faut quand même jouer un peu les policiers là-dedans. J'avais une soutane, vous savez, Père, vous rappelez de la soutane qu'on avait, c'était des grandes poches, puisqu'on y mettait un litre dedans, personne ne voyait rien. Mais il y avait toujours dans les poches de soutane de curé, il y avait un bout de ficelle, on ne sait pas pourquoi, il y avait toujours un canif, il y avait un tire-bouchon, ben mèche, hein, bien sûr, et un crayon, un petit calepin. Donc j'avais mon petit calepin, mon petit crayon, je me suis dit, je pouvais minuter cette messe. On va voir, ça me passait le temps. Que si on est là pour 2 heures, on n'est pas sorti de l'auberge. Et voilà que, à ce moment-là, il prend la patène et il offre le pain. Puis il la paie, il la met, je te donne, tu me donnes. Il dit, mais ça ne terminera pas. L'offrande du pain a duré 12 minutes. Vous avez des curés actuellement qui vous disent la messe entière avec un petit bout de sermon au milieu, en 12 minutes quand ils prennent la canon numéro 2. Lui, c'est le ferteur du pain. Le ferteur du pain, du vin, 2 minutes. Il dit 24 minutes, eh ben attention, bonjour les dégâts. À quelle heure on va sortir? Mystère. Moi, je n'étais pas très converti. Puis voilà que la messe continue. Et j'assiste à ce moment-là. J'avais utilisé la technique du séminaire français, c'est-à-dire quand on était dans les grandes célébrations avec le pape Pie XII, il y a des mouvements de coudes et d'épaules qui fait qu'on passe subrepticement d'une personne à l'autre et on avance comme ça. Et au bout de 5 minutes, le Monseigneur, il n'était pas devant moi, mais derrière. Et puis moi, j'étais derrière le rang de dames qui étaient les furies de tout à l'heure, qui étaient agglutinées autour de la table de communion à genoux. Moi, j'étais debout derrière et je voyais Padre Pio de trois quarts à gauche. J'ai vu se former sur son front la couronne d'épines, c'est-à-dire les gouttes de sang qui se formaient sur le front et surtout sur les tempes. Je voyais les manches des aubes, l'aube qui était en fait très étroite, longue mais étroite, parce qu'il disait la messe les mains nues, évidemment. Et alors, je voyais les blessures des mains qui étaient sanglantes. Et puis surtout, je voyais la bagarre qu'il y avait entre lui et le démon. Le démon ne voulait pas qu'il consacre, donc il avait l'hostie et la main gauche, et avec la main droite il repoussait quelqu'un, là, en tremblant tellement la force était grande. J'étais médusé, donc on m'a dit que j'ai rangé à ce moment-là mon petit cahier, mon petit calepin, mon petit crayon, et je me suis dit, tu devrais mieux faire prier, ce serait peut-être un peu mieux quand même, dans un cas comme ça, parce que ce que tu vois là, mon grand, c'est pas tous les jours que tu vas le voir, même pas les curés français, surtout pas. Voilà que, À bout de moment, il claque son hostie par terre, avec ses deux mains, il pousse quelqu'un. Lorsque la première fois, je lui ai servi la messe, c'était quelques mois après, au mois de mars suivant, j'avais avec moi sept autres confrères du séminaire français, dont un qui a mal tourné, parce qu'il est devenu cardinal, l'évêque de Sion en Suisse, cardinal Henri Schwery. J'étais à côté de l'hôtel, le nez sur l'hôtel, à côté du Padre Pio, et les autres, ils étaient à côté de moi, là. Mais ils ont senti, quand le démon est parti, une espèce de déplacement d'air. Bon, j'ai vu ça aussi. Et lorsque il a réussi à consacrer le pain et le vin, il s'est effondré par terre, mais je n'oublierai le regard d'intense amour qu'il avait en regardant ce pain et ce vin qui était devenu le Seigneur. Depuis ce jour-là, je n'ai jamais douté un seul instant de la présence réelle du Seigneur sous l'apparence du pain et du vin. C'est impressionnant. Il ne donnait pas la communion, bien sûr, aux gens, parce qu'il vivait la passion, mais quand il a communié lui-même, il y a eu un phénomène extraordinaire, il est devenu brillant, et il émettait de la lumière dans une espèce de halo de 3-4 mètres de diamètre à peu près, dans lequel le Monseigneur et moi on était d'ailleurs, les autres étaient un peu plus sombres. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là? On dirait une lampe électrique en forme de Padre Pio, il émet de la lumière. Je me suis retourné vers le Monseigneur, puis j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et le Monseigneur, il pleurait. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, regarde bien, c'est le phénomène de luminosité propre au grand mystique, c'est-à-dire que l'esprit prend tellement possession de la matière qu'elle devient irradiante, translucide. Dis, rappelle-toi, lorsque le Seigneur a eu sa transfiguration sur le mont Tabor, c'est exactement ça qui s'est passé. Ah! Où? Vous voyez, et lui, la scène est ça tranquille. Bon, moi, jeune séminariste, je n'avais jamais vu des choses pareilles. Bon, la messe se termine. Et comme il y avait Monseigneur et moi qui étions en soutanée, on a eu ce privilège extraordinaire de l'aider à enlever les pots des ornements sacerdotaux. Donc on enlève tous les deux, avec le Monseigneur, on enlève la chasuble, l'étole. Moi, je lui défais son cordon d'aube, dont voici un morceau là d'ailleurs, un morceau de cordon rouge. Et puis, je me suis dit, tiens, quand il va enlever ses manches, peut-être je verrai les stigmates. Mais avant que les manches soient enlevées, il a remis rapidement ses gants, et comme s'il avait lu dans mon esprit l'idée, le désir que j'avais, il s'est mis à me regarder en souriant, puis un grand coup, une grande gifle avec la revers de main sur les lèvres, j'ai senti, je dirais, la blessure à travers cette laine fine, mais je me suis dit, il y a du sang. Mon mouchoir était rouge, idiot que j'étais, j'ai lavé le mouchoir. Bon. Mais je me suis rendu compte là que le parfum devenait plus fort, et ce parfum que je sentais depuis la veille, c'était son sang. Ah. À ce moment-là, j'ai décidé de communier de sa main, évidemment, parce qu'après la messe, il est parti quelques minutes dans le couvent. Et puis il est redescendu 20 minutes après, quelque chose comme ça, et puis pour donner la communion aux gens qui étaient là. Et après, je me dis, je vais me confesser. J'avais complètement oublié qu'il fallait faire la queue, qu'il fallait attendre 3 semaines. Quand j'avais lu ça, j'avais dit à ma mère, tu ne vois pas rester 3 semaines dans ce pays de fou. Donc. Et ma mère m'a dit, non, tu vas arriver un soir, tu vas rester 2 jours, ça suffit largement. 2 jours. Un petit détail à retenir. 2 jours. Ça s'est passé au mois d'août, ça. Et alors, j'attends pour donner la communion, pour recevoir la communion. Il y avait donc un rang qui était à genoux déjà sur la table de communion. Puis derrière, il y avait encore 3 autres rangs, mais il y en a plusieurs derrière moi. Moi, j'étais au 4e. Et je regardais Padre Pio qui passait avec le ciboire, un frère capucin qui était là, prêt à l'aider au cas où. Et puis, de temps en temps, Padre Pio donnait la communion, puis il sautait 1 personne, 2 personnes, 4 personnes, 1 personne, 2 personnes. Alors les gens, en Italie, on commence d'un côté, on va jusque-là, puis on revient dans l'autre sens. Les autres, tout le monde était parti, sauf ceux-là. Alors il arrive, il saute les mêmes. Bon, tous les autres s'en vont, ils restent là, ils reviennent une troisième fois, ils sautent les mêmes. Quand ils avaient compris qu'ils avaient été sautés trois fois par des pillots, c'était pas le moment d'insister aujourd'hui, il fallait pas qu'ils se confessent aujourd'hui. Pourquoi? C'est un mystère. Et moi, je me suis dit, pourvu qu'ils me sautent pas. Parce que je me suis dit, bon sang, mais s'il lit dans les consciences, apparemment c'est ça. Moi, je suis quand même pas un grand pécheur, mais je suis pas très net. Je crois que j'ai jamais fait une communion si pleine de désir du Seigneur et avec le regret des fautes que je pouvais avoir. C'est une bonne leçon. Donc quand je...